France Info.
Ah, une belle journée demain, mercredi de nouvelles pluies, et puis vendredi aussi de nouvelles pluies avec un calme assez sympa au niveau de la journée de jeudi, et tout ça dans la douceur.
Et on suivra tout ça évidemment toute la semaine avec vous, Christine Peña, semaine qui commence. Merci à tous d'écouter France Info, il est 5h. Et à la une de ce 12 janvier, un week-end meurtrier dans les Alpes. 6 personnes sont mortes dans des avalanches. Nous allons faire le point dans un instant. Dans l'actualité également, les agriculteurs qui poursuivent leur mouvement contre le traité avec les pays du Mercosur. Et de nouveaux blocages sont prévus aujourd'hui. On fera le point. L'Iran toujours isolé du reste du monde. Internet est toujours coupé. Ordre des mollahs face aux manifestations. Et puis nous serons à Hollywood où le cocorico résonne à nouveau. Le français Timothée Chalamet, sacré meilleur acteur au Golden Globe cette nuit. Le risque avalanche était de 4 sur 5. Les messages d'alerte ont été nombreux, mais ils n'ont pas empêché les drames dans les deux Savoies ce week-end. 6 skieurs au total sont morts en 48 heures. Samedi déjà, 3 ont perdu la vie dans les secteurs hors-piste de Tignes et d'Arèche-Beaufort. Et Tommy Cataneo, la journée d'hier a malheureusement été tout aussi meurtrière.
Oui, le premier skieur est décédé en fin de matinée à Courchevel. Il a été emporté par l'avalanche un peu avant midi dans le secteur hors piste de Roche-Grise. Le service des pistes a été alerté à 11h38 et malgré l'intervention du PGHM de Courchevel, la personne ensevelie sous la neige est malheureusement décédée. À la Plagne, c'est un touriste anglais âgé d'une cinquantaine d'années qui s'est fait prendre dans une coulée un peu avant 14h, là encore en hors-piste. De gros moyens ont été engagés pour essayer de le retrouver au plus vite. 52 personnes, dont des pisteurs, des gendarmes du PGHM de Courchevel et des moniteurs de la station. Mais le skieur n'a pas survécu. Il a été localisé au bout de 50 minutes, enseveli sous 2,50 m de neige. Et puis en Haute-Savoie, deux skieurs évoluaient dans le secteur des Pauzettes à Valorcine quand une avalanche a piégé l'un d'entre eux vers 15h. D'après le PGHM de Chamonix, ce skieur de 32 ans, emporté dans la coulée, a mortellement percuté un arbre.
Les précisions de Tommy Cataneo, ici Pays de Savoie, pour France Info. C'est l'un des axes routiers les plus fréquentés de France. Des agriculteurs opposés au traité de libre-échange avec le Mercosur, qui a reçu le feu vert d'une majorité de pays de l'Union européenne, malgré l'opposition de la France. Des agriculteurs qui se sont installés hier soir sur l'autoroute A1 dans le Pas-de-Calais, au sud de l'île. Plusieurs tracteurs, autres actions et autres barrages filtrants. Hier, à l'entrée du port du Havre, Antoine Lassenon est l'un des agriculteurs mobilisés. Il dit que pour lui, cela vaut le coup de rester mobilisé, même si Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a déjà prévu de signer le traité avec le Mercosur dans 5 jours.
Oui, on y croit encore, ça passera après von der Leyen, ça passera après à Strasbourg le 20 janvier. Les JA, tous les syndicats agricoles seront là le 20 janvier à Strasbourg pour manifester notre mécontentement et voir un petit peu ce qui se passe. Mais non, on y croit encore, il y a encore la possibilité que ça se passe pas. La France a dit non, mais la France a quand même un poids sur l'Europe. Il faut montrer que les agriculteurs européens sont contre le Mercosur. S'il y a de l'importation de viande de pays étrangers de moins bonne qualité, va arriver sur le marché, ça va faire descendre les prix de la viande et ça va aussi nous faire descendre nos prix de viande à nous, agriculteurs français. Laissez-nous produire en France de la bonne nourriture, mangez bien, mangez français. Et nous, ce qu'on veut, c'est produire en France. On a les capacités de produire, donc laissez-nous produire et on va nourrir la France, il n'y a pas de souci.
Un témoignage recueilli par ici Normandie pour France Info. L'Iran veut négocier, assure Donald Trump aux États-Unis, le président américain qui menace d'intervenir dans le pays en soutien aux manifestants. Plusieurs centaines ont été tués selon les bilans des ONG de défense des droits de l'homme, sans pouvoir donner de bilan plus précis pour le moment, d'autant qu'Internet est coupé depuis maintenant plusieurs jours dans le pays face à ces manifestations toujours plus nombreuses. Boris Loumagne.
L'Iran n'a jamais connu une coupure Internet d'une telle ampleur. Difficile donc de recueillir des informations précises sur la situation dans le pays, même si Armand Shahabazi y parvient tout de même. Il est franco-iranien, journaliste d'investigation pour le média d'opposition au régime d'Or TV.
Disons que les informations, on arrive à en avoir un petit peu, mais dans des régions frontalières, on peut peut-être supposer qu'ils utilisent des connexions en passant en Turquie, par exemple. Et le peu d'informations fiables qu'on peut avoir, c'est via justement les personnes qui réussissent à se connecter via les satellites.
Oui, les satellites Starlink essentiellement. Armand Shahabazi a également pu récolter des informations auprès de ses contacts en Iran ce week-end à la faveur d'un rétablissement très bref du réseau Internet.
On a pu échanger par message, on a essayé de leur demander de nous envoyer un maximum de vidéos. Les vidéos sont à 80% envoyées via Telegram. Ces vidéos montraient des scènes d'affrontement. des tirs à balles réelles sur la foule.
C'est donc essentiellement grâce à ces vidéos, mais aussi grâce à des sources au sein des hôpitaux iraniens que les journalistes et les ONG parviennent à établir un bilan des pertes humaines. Un bilan parcellaire et qui évolue d'heure en heure.
Merci beaucoup Boris Loumagne. Le trafic des trains sera interrompu plusieurs jours entre Caen et Cherbourg, a dit finalement la SNCF. Le trafic ne reprendra pas aujourd'hui comme cela avait été annoncé un peu plus tôt. C'est la conséquence du déraillement d'un train de marchandises à 40 ans ce week-end dans la Manche. La circulation qui sera aussi perturbée entre Caen et Granville. Le football avec les 16e de finale de la Coupe de France et une victoire de l'OL hier, 2-1 face à Lille qui est donc désormais éliminée, avec un joueur lyonnais qui était très scruté, Hendrick, pépite brésilienne. Il a seulement 19 ans. Il ne joue pas au Real Madrid, son club, en raison de la concurrence féroce avec les autres joueurs. Alors il a choisi Lyon pour se relancer. Il a été prêté pour 6 mois et c'est lui qui a marqué hier le but de la victoire pour les Lyonnais. Lancement parfait, Nicolas Perronnet, pour celui qui sera sans doute l'une des stars de la deuxième partie de la saison.
Il n'aura même pas attendu la mi-temps pour célébrer son premier but en imitant un tireur à l'arc, 43 minutes seulement avant de décocher une première flèche en France.
Je suis super content, je me suis très bien adapté à l'équipe, tout le monde croit en moi et ça fait toujours plaisir de marquer. Le fait de gagner, ça va nous apporter de la confiance pour la suite, donc je suis très heureux.
Hendrick débarque sur les pelouses françaises en attirant tous les regards, même ceux des supporters adverses comme Charles Louis, déçu par l'élimination du LOSC, mais conscient d'avoir croisé hier soir le phénomène des prochains mois.
Ouais, c'est une bonne chose qu'il vienne en Ligue 1. Déjà, c'est aussi un joueur brésilien, technique, etc. Et on a vu ce soir qu'il avait des qualités.
Mise à profit très rapidement donc de son nouveau club, ses nouveaux coéquipiers et son nouveau capitaine, Corentin Tolisso.
Ouais, c'est bien, il s'est très vite adapté, ça fait maintenant à peu près 10-15 jours qu'il est là. Lui, personnellement, il a des objectifs à atteindre, donc s'il peut continuer à mettre des buts et à nous faire gagner les matchs, en tout cas c'est pour ça que l'Olympique Lyonnais l'a pris.
Un accord gagnant-gagnant que le Brésilien est allé fêter à la fin du match devant les supporters de l'OL qui ont fait le déplacement. Un petit avant-goût de ce qu'il attend dimanche pour sa grande première à domicile à Lyon.
Merci beaucoup Nicolas Perronnet. Autre match marquant hier de cette Coupe de France, Montpellier-Metz et les Montpelliérains, relégués la saison dernière en Ligue 2, ont très sèchement éliminé les Messins qui eux sont toujours un club de l'élite. Score final 4-0. Et puis direction Hollywood désormais. Bonjour Loïc Piala.
Bonjour.
En direct de Los Angeles pour France Info, où vous suivez, Loïc, la cérémonie des prestigieux Golden Globes qui n'est pas encore terminée. Alors Loïc, qu'est-ce que l'on retient pour l'instant du palmarès ?
Alors ce qu'on retient, c'est que Paul Thomas Anderson, le réalisateur de Une bataille après l'autre, qui avait été nommé 9 fois, passe une très bonne soirée. Il a été choisi meilleur scénariste, meilleur réalisateur. Son actrice Teyana Taylor a reçu le Golden Globe du meilleur second rôle. Et au moment où je vous parle, Julia Roberts est sur scène. La cérémonie a pris un peu de retard. Elle s'apprête à annoncer le prix de la meilleure comédie, sans doute Une bataille après l'autre, mais elle prend un peu de temps sur scène. J'en profite pour vous mentionner quand même que Timothée Chalamet, l'acteur franco-américain, a gagné enfin un Golden Globe après 5 nominations pour son rôle dans Marty Suprême. Déception en revanche pour Un simple accident, le film de Jafar Panahi, candidat français pour les Oscars, Palme d'Or, qui a été battu par un autre film cannois, L'Agent secret, le thriller politique brésilien. Dont l'acteur Wagner Moura a lui aussi été sacré. Et voilà, je peux vous confirmer qu'Une bataille après l'autre a bien reçu le Golden Globe à l'instant du meilleur film catégorie comédie. Reste encore un prix à donner, celui du meilleur drame.
Merci beaucoup Loïc Piala, c'est du direct, vous nous l'avez prouvé en direct de Los Angeles à la cérémonie des Golden Globes. Merci à vous, on vous retrouvera évidemment tout au long de cette matinale pour préciser ce palmarès. Christine Peña, le Golden Globe de la météo, il va à la pluie hein, aujourd'hui, oui. Et pluie au nord.
Oui, elle est de retour déjà hein, au nord. On fait attention d'ailleurs sur le nord-est. Les températures restent proches du zéro en Lorraine, Alsace, Bourgogne. On peut avoir quelques pluies verglaçantes ce matin alors qu'il fait beaucoup plus doux à l'ouest. 13 à Rennes en ce moment, ça change de la semaine dernière quand même.
Hein. Oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup Christine Peña. 5h09.
France Info, le monde d'Élodie.
Bonjour, c'est Élodie Suigo. Je vous retrouve du lundi au vendredi sur France Info, cinéma, théâtre, littérature, musique, sport. Chaque jour, je vous propose un entretien sous forme de portrait avec un artiste autour de son actualité.
Le monde d'Élodie, c'est toute la semaine à 10h50, 15h50 et 21h50 sur France Info.
Et au programme, d'ici 5h30, on l'entendait, le monde d'Élodie avec un grand chef, je ne vous en dis pas plus, qui sera son invité dans une dizaine de minutes. Dans 5 minutes cette fois, nous serons au Groenland, le territoire danois dont Donald Trump envisage de plus en plus sérieusement de s'emparer. Documents à retrouver d'ici 5 minutes donc. Et puis nous serons aussi à Lille, nouvelle étape du Tour de France Info à l'approche des municipales. Mais partons d'abord pour les Alpes qui ont vécu un week-end noir.
France Info, 5h-6h, William Gecosta.
6 skieurs y sont morts en 48 heures dans des avalanches à Val d'Isère, Courchevel, Arèche-Beaufort, Valorcine et La Plagne. Tous skiés en hors-piste malgré le fort risque d'avalanche et des consignes de grande prudence de la part des autorités. Stéphane Borné, le directeur de l'ANENA, l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches basée à Grenoble.
C'est pas la colère qui nous anime, c'est plutôt la tristesse de voir que des gens vont s'engager sur des secteurs qui ne sont pas encore sécurisés, qui ne le seront peut-être jamais, parce qu'il faudra rappeler peut-être que justement en station, quand on opère du déclenchement préventif d'avalanche, ça consiste à sécuriser les pistes, les remontées mécaniques, les chemins d'accès, mais en aucun cas les hors-pistes. Et ce qui nous interroge encore un peu plus, c'est que une grande majorité de ces victimes, malheureusement, n'étaient pas équipées du triptyque DVA, donc le détecteur de victimes d'avalanche, de la et de la sonde, qui sont les seuls moyens que l'on a aujourd'hui pour arriver à faire de l'autosecours assez rapidement.
Mais comment vous expliquez que, malgré le risque, on était sur un risque de 4 sur 5, risque très important d'avalanche, on le sait lorsqu'on est en montagne, les informations circulent, comment expliquer que des personnes prennent le risque de s'aventurer en hors-piste alors que les conditions ne sont pas réunies pour le faire en toute sécurité ?
Effectivement, vous avez raison. Depuis bien avant même la mise en place de cette perturbation qui nous a touchés ces derniers jours. La communication a été faite, les messages de prévention ont été envoyés, ont été relayés sur le terrain, que ce soit de la part de l'ANENA, mais également de la part de l'ensemble des services des pistes ou des secours professionnels de la montagne. Malgré tout, ce qu'on peut tout à fait comprendre, c'est que les gens, après près d'un mois et demi sans précipitation, avaient envie de se rendre au ski ce week-end, avaient envie de profiter de cette belle neige qui nous est tombée, qui est tombée en quantité. La météo était totalement incroyable, du grand beau temps de partout, et c'est vrai que malheureusement on pouvait s'attendre à ce genre de scénario. La neige a besoin d'un certain temps pour prendre de la cohésion, pour que le manteau neigeux se stabilise. Malgré tout, les gens ont envie de fréquenter la montagne. Quand ils sont en station, ils perdent peut-être les repères de bonne conduite qu'on se tue à enseigner et à répéter au gré des messages et par tous les moyens possibles.
Pour vous, Stéphane Borné, quand le risque d'avalanche est de 4 sur 5, c'est hors piste absolument déconseillé, on évite à tout prix de sortir du domaine skiable.
Le risque 4, il est malheureusement pris plusieurs fois dans la saison. Ce qui différencie un risque 4 d'un risque 3, c'est que par risque 4, on a un risque de déclenchement spontané des avalanches. C'est-à-dire que la neige va pouvoir se mettre en mouvement sous son propre poids, sans intervention extérieure, que ce soit d'un animal ou d'un skieur. Et du coup, cette neige, elle peut se mettre en mouvement et impacter des skieurs qui se trouveraient même à distance d'une zone dangereuse en se croyant en sécurité.
Il y a quand même de plus en plus de skieurs qui sont équipés de ce fameux DVA, le détecteur. Est-ce que ça ne donne pas un peu trop confiance justement aux skieurs ? On tente le hors-piste parce qu'on se dit que de toute façon, au pire, on pourra être sauvé si jamais on est pris par une avalanche.
Effectivement, peut-être que certains ont ce sentiment d'invulnérabilité du fait qu'ils soient équipés de ce triptyque, mais je ne pense pas. Je pense simplement parce que si on reprend les chiffres de l'année dernière, et malheureusement ce week-end ne fait que les conforter, on a des victimes qui ne sont pas équipées. Donc la problématique, elle est plutôt du fait que les gens qui sont en station par ce déclenchement préventif qui est opéré par tous les services des pistes dans toutes les stations de France se sentent en sécurité. Et quand on regarde les chiffres, on voit très bien qu'en dehors du secteur aménagé, dès que les gens fréquentent la montagne, 80-90% des gens, des skieurs qui fréquentent la montagne sont équipés, s'entraînent, préparent leur sortie justement pour mettre toutes les chances de leur côté et éviter l'accident. Ce DVA permet, ce détecteur de victimes d'avalanche, lui permet de rechercher et de trouver rapidement les victimes, la meilleure recette, c'est encore de ne pas se faire prendre. C'est peut-être une banalité que de dire ça, mais la préparation d'un itinéraire, que ce soit à la montée ou à la descente, le fait de se renseigner, d'aller voir les services de piste qui sont en proximité, de prendre les services d'un professionnel, ce sont les meilleures mesures que l'on a aujourd'hui pour éviter l'accident.
Le directeur de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches, Stéphane Bornet, qui répondait aux questions France Info de Thomas Séchier. La menace se précise chaque jour un peu plus, celle d'une annexion du Groenland par les États-Unis de Donald Trump, avec des conséquences potentiellement énormes. On le rappelle, le Groenland appartient au Danemark, l'un des membres de l'OTAN, membre de l'Union européenne. Ce territoire autonome, il rêve depuis des décennies d'indépendance et il redoute désormais de passer donc du giron danois à celui des Américains. Bonjour à Gérard Mohamed.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial à Nuuk, la capitale du Groenland, où les habitants vivent désormais dans l'angoisse.
C'est l'un des bars les plus prisés des jeunes Groenlandais. Situé au dernier étage d'un hôtel très huppé, ils viennent y boire un verre ou danser.
I'm Lucas. Mark, 26.
Lucas, Marc, ils ont 26 et 27 ans, de collègues de travail, guides touristiques dans la vie, venus se détendre dans ce monde où ils se sentent un peu sous pression, tout ça à cause de Donald Trump.
Je trouve ça fou. Ce qui me préoccupe le plus, c'est qu'il s'intéresse à nos minerais rares et s'il s'en empare, il va détruire la nature. Et pour nous, les Groenlandais, la nature, c'est comme notre Dieu. S'il l'abîme, ça va nous blesser.
L'indépendance totale de leur pays vis-à-vis du Danemark. Ces jeunes Groenlandais en entendent parler depuis toujours, mais ont bien du mal à y croire aujourd'hui.
Peut-être qu'on sera indépendant un jour, dans quelques années, mais là, on n'est pas stable économiquement. Nous avons besoin du Danemark.
Parce qu'on n'a pas notre propre armée, donc on a besoin du Danemark et de l'OTAN et de tous ceux qui peuvent nous aider en ce moment. Personnellement, je préfère dépendre des Danois que des Américains.
Pourtant, la majorité des habitants de Nuuk sont catégoriques. Ils ne veulent être ni sous la tutelle du Danemark, ni sous celle des États-Unis.
Hi, my name is Sophie.
Sophie, grand sourire aux lèvres, nous accueille dans sa boutique de souvenirs.
You can buy a tupilak.
Vous pouvez acheter un tupilak pour vous ou votre famille.
C'est une petite statuette, une petite amulette pour se protéger du mal, c'est ça?
Yes. Je
veux vous protéger de ce diable de Trump et du gouvernement danois.
Certes, le président américain l'insupporte.
Je suis en colère parce qu'ils ont dit on a besoin du Groenland. Mais en fait, il a besoin de notre argent, pas de nous.
Mais Sophie dénonce la relation toujours inégale aussi entre le Groenland et le Danemark.
Ici, on a des entreprises, mais elles sont danoises. Les patrons ne sont pas groenlandais. Je ne sais pas pourquoi.
Et puis à Gera, il y a aussi l'histoire douloureuse des Inuits, peuple autochtone du Groenland, opprimés pendant des siècles de colonisation danoise.
Oui, les Inuits représentent 88% de la population sur l'île aujourd'hui. Sophie en fait partie. Elle nous raconte notamment le sort de ces femmes groenlandaises stérilisées de force par les autorités danoises. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et il y a au moins 4000 victimes.
Deux de mes tantes n'ont pas pu avoir d'enfants à cause de ça. Les filles, ils leur inséraient des stérilés de force. C'est pour ça que nous ne sommes pas nombreux les Groenlandais. C'est très triste.
C'était en quelle année ça?
Dans les années 70. Moi, j'espère qu'un jour, on sera indépendant. Pas danois, pas américain, juste Groenlandais.
On veut être Groenlandais, oui.
À 75 ans, Per Bertelsen est le doyen du Parlement du Groenland, fondateur des démocrates, parti majoritaire indépendantiste.
Mais aujourd'hui, il faut arrêter de regarder en arrière et de critiquer le Danemark. Utilisons notre énergie, notre force, pour tenter de trouver un terrain d'entente pour satisfaire toutes les parties et de manière pacifique.
Pacifique à l'image de notre peuple, conclut-il.
France Info, reportage au Groenland, signé Agera Mohamed. À deux mois des municipales en France, nous sommes dans un instant dans un fief socialiste, Lille, qui pourrait bien changer de camp. C'est dans un instant.
France Info, 5h-6h.
Bonjour Diane Ferschit.
Bonjour à tous.
À 5h19, c'est l'heure de l'info en une minute avec vous et à la une, Donald Trump qui affirme que l'Iran veut négocier.
Le président américain qui a menacé Téhéran d'une opération militaire alors que le régime iranien est confronté à des manifestations massives. Une rencontre est en cours de préparation, assure Donald Trump. Le fils de l'ancien Shah en exil aux États-Unis appelle les forces de sécurité iraniennes à rejoindre le peuple alors que le régime lui appelle à des manifestations de soutien aujourd'hui à la République islamique. L'Union européenne confirme que la signature de l'accord avec les pays du Mercosur aura lieu samedi, alors que la colère des agriculteurs français ne faiblit pas. Après avoir tenté de bloquer le port du Havre hier, ils ont débuté hier soir une action sur l'autoroute A1, un barrage filtrant au sud de l'île, blocage qu'ils envisagent de tenir plusieurs jours. Le lancement du nouveau service national militaire volontaire, la campagne de recrutement débute aujourd'hui. 10 mois de mission pour les jeunes de 18 à 25 ans. Au total, 3000 places sont à pourvoir pour cette première année. La 83e cérémonie des Golden Globes aux États-Unis à 2 mois des Oscars et parmi les récompenses, celle de meilleur acteur dans une comédie pour Timothée Chalamet dans Marty Suprême et plusieurs prix pour Une bataille après l'autre, film sur les dérives extrémistes aux États-Unis, dont celui de meilleur réalisateur et de meilleure comédie.
France Info, municipale 2026.
Depuis 1955, les socialistes n'ont jamais perdu la mairie de Lille. Mais la domination du PS est-elle menacée à l'approche des municipales ? France Info est donc à Lille, où la figure locale, Martine Aubry, a passé la main en mars dernier. Elle a désigné un successeur, mais la campagne s'annonce ardue pour lui, Audrey Tison.
Ils avaient failli renverser Martine Aubry il y a 6 ans. Maintenant qu'elle n'est plus là, les écologistes donnent tout pour ravir le beffroi de Lille.
Bonsoir, je viens pour les élections municipales. Je
vous opération porte à porte ce jour-là pour Stéphane Bally.
Ce que je propose finalement, c'est de retrouver l'enthousiasme et la mobilisation d'apporter un nouveau souffle pour la ville. C'est le constat aujourd'hui d'une ville qui est un peu à l'arrêt. On a un candidat qui a accompagné Martine Aubry sur les 4 mandats. Finalement, c'est son 5e mandat.
Le candidat écolo et ses militants veulent toucher le maximum d'habitants. Les voici dans un immeuble.
Donc là, c'est notre première mesure pour la solidarité.
Merci.
Stéphane Bally, je ne sais pas si vous l'avez déjà identifié. Il était candidat en 2020.
Sa tête, elle ne me dit rien du tout.
Mais peut-être que vous ne connaissez pas non plus le nom du maire en fonction depuis pas si longtemps.
Ça se finit par Landou, quelque chose comme ça. Ou...
Arnaud Deslandes,
voilà.
Et comme Monique, beaucoup de Lillois ne connaissent pas le nom de celui qui a hérité de la mairie il y a 10 mois. Arnaud Deslandes a débuté comme stagiaire de Martine Aubry avant de gravir les échelons.
J'assume l'héritage politique de Martine Aubry. Je revendique ce qu'elle a pu faire pour cette ville, notamment pour garder notre cohésion dans notre ville. Alors, changement de style, mais pas changement de cap.
Il met les bouchées doubles pour se faire un nom.
Par des mesures qui assurent la transformation de la ville, je pense notamment à la piétonnisation de la Grand Place. Et puis en étant là, chaque jour, sur le terrain, auprès des Lillois, à l'écoute.
Mais ce maire se concentre uniquement sur le centre-ville, critique son adversaire insoumise, Lawaria Hadouche.
Les socialistes ont rendu la ville invivable, surtout aux habitants des quartiers populaires. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut tourner la page des notables socialistes qui sont complètement déconnectés des habitants.
Face à la division de la gauche, une autre ancienne collaboratrice de Martine Aubry espère tirer son épingle du jeu.
Violette Spielboot, je suis actuellement députée du Nord et conseillère municipale de Lille.
Discrète sur son appartenance au parti présidentiel Renaissance, elle dénonce 2 échecs de l'équipe sortante, la pauvreté et l'insécurité.
Ça fait 25 ans que Martine Aubry puis Arnaud Deslandes sont aux manettes. Et aujourd'hui, on est dans la ville la 3e la plus dangereuse de France. Je crois que la sécurité est prioritaire. Ça passe nécessairement par des moyens importants.
Plus de police et plus de caméras, c'est aussi l'une des priorités des 2 autres candidats. Le tout jeune Louis Delemaire des Républicains et Mathieu Vallée du Rassemblement National. Un ancien commissaire qui développe ce slogan. Qui mieux qu'un policier pour rétablir l'ordre à Lille.
France Info, reportage municipal signé Audrey Tison à Lille. Partons pour le monde d'Élodie. Et à 5h23, c'est déjà l'heure de passer à table.
Bonjour Jean-François Piège.
Bonjour.
Vous êtes l'un des chefs cuisiniers les plus connus en France. Vous êtes à la tête du restaurant gastronomique, le grand restaurant ouvert en indépendant il y a tout juste 10 ans. À 14 ans déjà, depuis l'école hôtelière de Tain-l'Hermitage, vous avez appris ce métier. Vous rêviez déjà de proposer votre propre cuisine et vos plats. Vous êtes passé par l'hôtel Le Crillon en tant que chef de partie, aux côtés de Christian Constant. Vous avez aussi travaillé avec Alain Ducasse pendant 12 ans. Vous avez franchi chacun des échelons d'apprenti à commis en passant par sous-chef jusqu'à atteindre votre premier poste de chef de cuisine en reprenant le restaurant de Joël Robuchon. Je crois que ça a été un moment très fort pour vous, ça?
Oui, parce que Joël Robuchon est un monstre au sens noble du terme, et succéder à ce monstre était un honneur pour moi, en tous les cas.
En 2011, vous avez été élu chef de l'année par la revue Le Chef par vos pairs. Vous avez reçu 2 étoiles par le guide Michelin pour votre restaurant Jean-François Piège. J'ai l'impression qu'avec ce restaurant, le grand restaurant, vous avez réussi à vous trouver.
J'ai trouvé mon équilibre avec mon épouse parce qu'on vit une histoire que je rêvais de vivre. En fait, c'était d'avoir plusieurs cordes à mon arc. C'est-à-dire que la cuisine, elle n'est pas monolithique. C'est pas que de la gastronomie, c'est aussi la capacité de réfléchir à pouvoir nourrir et à réjouir des gens dans un bistrot ou dans un restaurant qui est un peu plus conceptuel comme Clover Grill où on vient griller des viandes. Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai jamais rêvé d'être chef. Je rêvais d'avoir la recette pour faire plaisir aux autres.
En tout cas, vous avez commencé à l'âge de 14 ans. Ça veut dire que déjà à 14 ans, vous saviez que les pianos de cuisine allaient être votre façon de battre la musique?
Non, parce que juste avant, jusqu'à très peu de temps avant, je voulais être jardinier. Et en fait, c'est l'adolescence, au moment où peut-être on réfléchit un peu différemment, où on se structure personnellement, que j'ai compris que ce qui m'intéressait, c'était pas de cultiver la terre, mais c'était de travailler ce que la terre nous donnait. Et en fait, je pense que quand on fait un métier, on le fait toujours pour les autres, et c'est un métier fabuleux, celui de restaurateur, parce que j'étais cuisinier, je suis devenu restaurateur, de pouvoir s'occuper du plaisir de ceux qui s'attablent.
La cuisine, pendant très longtemps, Jean-François Piège, on a eu l'impression qu'elle était immuable, entre guillemets. Aujourd'hui, elle a beaucoup évolué, parce qu'on allège, parce qu'on sale moins, parce qu'on fait attention à l'environnement. Ça, c'est aussi un challenge, c'est ce qui, entre guillemets, sans vilain jeu de mots, redistribue les cartes.
Mais c'est ça qui me passionne, en fait. Parce qu'en fait, rien n'est écrit. Rien n'est écrit pour toujours. Ce que je n'aime pas faire, c'est réinterpréter. Réinterpréter, c'est-à-dire changer l'ADN d'un plat. À la poule au pot, quand je fais une soupe à l'oignon, j'aime que ce soit une soupe à l'oignon dans sa plus simple expression. Mais ce que vous dites est assez juste, et je vais vous donner un autre exemple, la crème anglaise. La crème anglaise, c'est du lait, du sucre, des jaunes d'œufs et de la vanille. En 84, je suis rentré à l'école hôtelière, l'une des premières choses que j'ai fait, c'est la crème anglaise. Et la recette, c'était 1 litre de lait, 280 g de sucre, 8 jaunes d'œufs et une gousse de vanille, ou deux. Maintenant, on met 4 gousses de vanille, parce qu'on aime des goûts plus puissants. On met 150 g de sucre, parce qu'on aime des choses moins sucrées.
Un litre
de lait et les mêmes jaunes d'œufs. Donc effectivement, cette recette qui est inscrite au panthéon du classicisme de la cuisine et de la pâtisserie, on l'a fait évoluer en réduisant le sucre, en réduisant le sel, mais tout en étant juste. Et parfois, c'est aussi une part de mon métier, c'est de goûter, de m'asseoir, de mettre dans les conditions pour dire est-ce que cet équilibre est respecté. C'est ce qui fait la différence entre la cuisine du quotidien et la cuisine gastronomique, c'est une question d'équilibre.
Comment c'est possible qu'en France, on soit toujours considéré aujourd'hui comme ayant la meilleure cuisine du monde?
Alors merci de la question, parce que c'est une question que j'adore. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas juste.
D'accord.
C'est pas la cuisine en France. Vous savez ce que c'est? C'est la gastronomie. Et la gastronomie, ça ne veut pas dire des restaurants chers. Parce que c'est l'image qu'on en a. La gastronomie, c'est l'ensemble qui réunit les acteurs qui produisent quotidiennement des choses qui vont servir à réjouir les autres. Que ce soit un paysan qui fasse des oignons, que ce soit un orfèvre qui fasse de l'argenterie. Culturellement, en France, on a depuis très longtemps une histoire folle. Et ça passe aussi par les auteurs, parce que ça a été codifié. Hein. Les premiers livres de cuisine sont sous Louis XIV, où il a codifié la façon dont il mangeait. C'est pour ça qu'à l'UNESCO, on n'a pas classé la cuisine française, parce que la cuisine française, elle est très bien, elle est très belle. Mais c'est la gastronomie française qui est forte. Les vins, la table, et aussi la façon dont on vit ensemble à table. Vous mettez 4 Français, ils sont en train de manger, ils vont parler du prochain repas. Ce n'est que français, ça.
Ce qui est étonnant chez vous, c'est que quand on vous regarde et qu'on voit vos yeux, on voit les yeux de l'enfant que vous étiez. On a l'impression qu'ils n'ont pas changé, ces yeux-là, sur le regard sur la vie, sur l'envie de proposer des choses qui font du bien aux autres. C'était ça, le point de départ, d'ailleurs?
Oui. C'est faire plaisir aux autres. J'entendais mes parents qui faisaient une cagnotte par an pour aller manger dans un grand restaurant avec des amis ou en famille. Nous, on n'était pas dans ces moments-là. Mais en revanche, on avait les commentaires d'après. Ce plat qui était comme ça était fabuleux et autres. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de se dire que quand on fait son métier, on arrive à transmettre de la joie, du bonheur aux gens qui viennent s'asseoir à notre table. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je fais ce métier.
Donc pour les 10 ans, il y a un livre manifeste dans lequel vous parlez des mijotés modernes. Alors ça, c'est vraiment votre signature. Non,
oui, c'est la signature. Et puis j'ai fait 20 livres. Donc à un moment donné, il fallait que le livre ait son identité. Et j'ai pris les 10 faits marquants qui ont créé l'identité du grand restaurant 10 ans après. On mange du bout des doigts, parce que je pense que pour désinhiber l'univers du grand restaurant, peut-être que manger du bout des doigts au début, c'est peut-être moins intimidant.
Merci beaucoup, Jean-François Piège, d'être passé dans le Monde Élodie sur France Info. Le grand restaurant est donc dans le 8e arrondissement à Paris, rue
d'Aguesseau.
C'est bien, vous savez où vous travaillez, c'est parfait. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà qui nous donne fin de très bon matin. Merci beaucoup à Élodie Suigo. On retrouve Le Monde Élodie avec le chef Jean-François Piège sur l'application Radio France.
France Info Météo avec Verisure. En 2026, priorité à votre sécurité. Faites confiance à Verisure, alarme télésurveillée numéro 1 en France. Devis gratuit sur verisure.fr.
Christine Peña, en ce lundi, ce que vous nous dites, c'est que la météo est beaucoup plus calme que la semaine dernière.
Bah oui, neige, tempête, il n'y a pas de mal. Effectivement, c'est pas ennuyé. Là, c'est un peu les vacances pour moi, finalement. On a un rythme quand même de défilé de perturbations. Hein. C'est pas tout à fait calme. Qui restera bien mou, qui permettra de bons moments de calme et de soleil, finalement, notamment demain, journée calme, jeudi également. Fin de semaine, ce rythme pourrait de nouveau se dynamiser avec de belles chutes de neige d'ailleurs, mais sur les reliefs et notamment sur les Alpes pour vendredi et samedi. Aujourd'hui, on a un découpage classique nord-sud, hein, des pluies au nord. On fait attention aux pluies verglaçantes sur le nord-est et puis au sud, beaucoup plus calme avec un ciel voilé, des nuages quand même qui s'invitent vers le golfe du Lion et surtout cette douceur qui revient par l'ouest. 14 à Rennes, à Bordeaux, à Toulon, à Bastia, 18 à Biarritz cet après-midi. Il fera 11 à Reims, comme à Tours, à Bourges et 12 à Paris.
Merci beaucoup Christine Peña. Les manifestations et la répression ne faiblissent pas en Iran. Est-ce le mouvement de trop pour le régime des Mollahs? Le régime du Shah peut-il revenir? Les États-Unis vont-ils mener de nouvelles frappes? Toutes ces questions dans notre dossier dans 5 minutes. Ce qui vous attend aussi d'ici 6 heures sur France Info, la folie du parfum chez les jeunes. Certains fabricants bon marché ont flairé le bon filon, ce sera le choix de France Info. Mais tout d'abord, un nouveau point sur l'actu à 5h30. Bienvenue.
France Info. William Guécostin.
Et c'est le coup d'envoi aujourd'hui pour le service militaire volontaire. Le dépôt de candidature est désormais possible. Le gouvernement espère trouver 3000 jeunes de 18 à 25 ans pour être opérationnels dès cet été. Un service qui aura lieu uniquement en France, d'une durée de 10 mois, nourri, logé, blanchi avec une solde mensuelle de 800 euros minimum. Alors 3000 jeunes Français pour l'instant, avec l'ambition d'atteindre plus de 40 000 d'ici 10 ans. Indispensable, selon la ministre des armées, Catherine Vautrin.
Ce que nous voyons, c'est que le format de nos armées, à un moment où le monde se réarme partout, doit évoluer. Et il évolue avec une armée professionnelle, une réserve, cette réserve opérationnelle. Et nous lançons le service national qui permettra à des jeunes un mois, qui est un mois de formation, pour les plus anciens, l'équivalent finalement de ce qu'étaient les classes. Et ensuite, 9 mois de service utile, c'est-à-dire un engagement opérationnel au sein de nos armées. Soit ils veulent continuer à être très actifs, ils vont aller vers la réserve opérationnelle, soit ils souhaitent rester en contact, pas plus pour l'instant, et à ce moment-là, ils sont dans la réserve de disponibilité, ils continuent d'avoir un lien avec les armées sans aller plus loin.
La ministre des armées, Catherine Vautrin, qui répondait aux questions de Darius Rochebain sur LCI hier soir. Les agriculteurs comptent bien maintenir la pression. Hier, certains agriculteurs en colère ont mis en place un barrage filtrant sur l'autoroute A1, l'un des axes les plus fréquentés de France, au niveau d'un péage dans le Pas-de-Calais, donc au sud de Lille. Et puis d'autres comptent aussi se mobiliser dans la Somme, à Estrée-Denier-Court. Les syndicats espèrent mobiliser entre 100 et 200 tracteurs qui doivent partir de l'Oise et peut-être partir dès ce soir vers Paris. C'est ce qu'explique Luc Smessard. C'est le vice-président de la FNSEA installé dans le nord de l'Oise. Action évidemment contre cet accord de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud du Mercosur qui a été validé par l'Union européenne.
En début de semaine, donc mardi, mercredi, peut-être jeudi, nous serons à Paris. Et en tout cas, c'est fixé. Il y aura un rendez-vous européen à Strasbourg le mardi 20 janvier, en même temps que se tiendra la réunion du Parlement européen, pour qu'il y ait une vraie saisine du Parlement, pour que enfin on stoppe ce traité du Mercosur. On nous parle d'un blocage qui pourrait durer 18 mois, parce que la saisine de la Cour européenne de justice fait que ça met en moyenne entre 15 et 18 mois pour avoir la réponse de la Cour européenne de justice. Et donc, pendant ce temps-là, le traité est bloqué. Il n'y a rien qui peut se faire tant qu'il n'y a pas eu la réponse de la Cour européenne de justice. Si on le bloque 18 mois, c'est clair, on va enterrer le Mercosur et ce fameux traité.
Le vice-président de la FNSEA, Luc Smessard, on le rappelle, ce traité, il a été validé par les chefs d'État et gouvernement de l'Union, malgré l'opposition de la France. Le RN et LFI ont déposé d'ailleurs des motions de censure contre le gouvernement, qui seront examinées la semaine prochaine, mais les socialistes ne les voteront pas, annonce leur premier secrétaire, Olivier Faure. Un mouvement de grève grève est prévue demain à la SNCF, mais les perturbations du trafic seront limitées, assure la compagnie. Le trafic sera quasi normal. Appel au débrayage à l'appel de la CGT Cheminots et de Sudrail en pleine négociation sur une prime. Et puis c'est devenu une tradition depuis 17 ans des voyageurs du Tube. Le métro londonien ont tombé le pantalon hier dans les rames. Alors n'y voyez pas de l'exhibitionnisme, ils portaient fort heureusement des sous-vêtements colorés. Et c'est un événement potache qui n'a pas vraiment de raison d'exister et qui s'est inspiré de ce qui se fait déjà depuis presque 3 décennies à New York. Allez, on garde le pantalon à 5h34 sur France Info.
France Info, 5h-6h, William Gecosta.
Nous allons revenir dans un instant sur la situation internationale avec ces manifestations et la répression en Iran. Mais d'abord, nous sommes dans les Alpes où malgré les alertes, malgré le risque d'avalanche 4 sur 5, eh bien 6 personnes sont mortes ce week-end en seulement 48 heaures à Val d'Isère, Courchevel, Arèche-Beaufort, Valorcine et La Plagne. Leur point commun à ces victimes, elles skiaient hors piste alors que les autorités appelaient à la prudence. Des drames qui mettent en colère Jean-Luc Bock, président de France Montagne, de l'association national des maires de stations de montagne. Il est aussi le maire de la Plagne Tarentaise en Savoie, où un Britannique a perdu la vie ce week-end.
C'est vraiment dommage qu'on n'écoute pas les professionnels. Les gens ne se rendent pas compte quand on voit la montagne immaculée, quand on voit cette magnifique neige qui recouvre tout. On ne se doute pas quand on n'a pas en tête tous les critères et qu'on ne connaît pas forcément très bien la montagne, que ça peut être dangereux. Et on a peur pour les jours à venir parce qu'il reste encore beaucoup de zones qui n'ont pas été explorées et surtout des zones de haute altitude. Il y avait des plans de déclenchement d'avalanche un petit peu de partout pour sécuriser le domaine et on va ouvrir la très haute altitude. Et on a vraiment peur de la non-vigilance de l'intégralité des skieurs qui vont partir sur ces secteurs alors qu'on va renforcer encore la communication à destination de tout le monde.
Il faut à tout prix éviter le hors-piste. Le hors-piste, c'est avec un guide et uniquement avec un guide.
Même avec un guide, en ce moment, c'est très très compliqué. Les guides ont la connaissance, ont l'expérience. Ils ne vont pas amener leurs clients dans des endroits qui sont trop accidentogènes, où il y a beaucoup de risques. On a eu aussi, il faut pas l'oublier, pas mal de vent. Et donc, on a des plaques à neige, des plaques à vent qui ont été réalisées et il y a une instabilité du manteau puisque la neige très dure qui était présente avant et la neige très fraîche, très légère qui est arrivée ne se colle pas pour le moment. Il n'y a pas de cohésion au niveau du manteau neigeux. Donc, il faut être très vigilant et aller dans des secteurs connus et surtout, comme vous l'avez dit, au minimum, être encadré et avoir tous les moyens de protection individuelle à défaut, je dirais, de rester sur les pistes. Malheureusement, vous avez beaucoup de personnes, malgré les panneaux, malgré les drapeaux, malgré les interdictions de passage, qui franchissent les cordes. Et la montagne est un des derniers espaces de liberté. Certains en profitent. Malheureusement, aujourd'hui, ça ne s'est pas forcément très très bien passé.
Quand on va acheter son forfait, par exemple, il faudrait presque que la personne qui vous vend le forfait vous dise « Attention, il y a des risques d'avalanche, soyez prudent, il faut en rajouter sans cesse. »
Je ne sais plus honnêtement ce qu'il faut faire, puisque là, depuis 3 jours, tous les professionnels sur tous les médias ont expliqué la dangerosité de la montagne et expliqué à l'intégralité des personnes qui voulaient bien l'entendre et le comprendre, qu'il ne fallait surtout pas sortir parce qu'ils mettaient non seulement leur vie en danger, mais ils mettaient aussi la vie des autres, ceux qui peuvent être en aval ou alors tout simplement les secouristes qui vont essayer de les aider. Donc il faut être très très prudent dans les jours à venir.
Le maire de la Plagne Tarentaise, en Savoie, président de France Montagne, Jean-Luc Bock, qui répondait aux questions France Info de Catherine Potier. Plusieurs centaines de personnes ont déjà été tuées en Iran, selon des ONG de défense des droits de l'homme. Bilan impossible à préciser pour le moment, car le pays est coupé du monde, à huis clos, en raison de la coupure d'Internet décidée par les autorités face aux manifestations. Face à cela, justement, les États-Unis de Donald Trump menacent Téhéran d'une intervention. Est-ce un scénario plausible? La réponse de Thierry Coville. Il est chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, c'est un spécialiste de l'Iran.
Donald Trump est en train de réfléchir aux différentes options. Parce que autant il y a certains opposants, pas tous, hein, iraniens de l'extérieur de l'Iran qui appellent à cette intervention. D'un autre côté, il y a une crainte qu'elle soit contre-productive, dans le sens où il y a quand même le risque qu'il y ait une réaction nationaliste en Iran, comme il y a eu lieu après l'attaque israélienne en juin. Et surtout que l'Iran réponde. Quelles pourraient être les réponses de l'Iran, notamment avec leurs points balistiques? Donc, et comme Donald Trump ne veut surtout pas s'engager dans une guerre de à long terme avec des pertes américaines, a priori, il essaye d'aider les manifestants. Donc, à mon avis, il est en train de réfléchir à la meilleure option.
Alors, est-ce que le régime iranien peut tomber? Il est encore beaucoup trop tôt pour le dire, évidemment. Je voudrais qu'on s'intéresse avec vous, Thierry Coville, à celui qui est présenté comme l'un des leaders de l'opposition iranienne. C'est Reza Pahlavi, 65 ans. C'est le fils de l'ancien monarque, l'ancien Shah d'Iran, qui avait fui le pays en 79 à la suite de la révolution islamique. Reza Pahlavi se dit aujourd'hui, dans une interview à la télévision américaine Fox News, prêt à retourner en Iran dès que possible. Écoutez.
Je suis prêt à retourner en Iran dès que l'opportunité se présentera. J'organise déjà cela avec une équipe de transition. On espère seulement que le peuple iranien sera victorieux cette fois, et il le sera, parce que je sais que les Iraniens sont prêts à mourir pour cette cause, comme je le suis. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, et je pense que ce n'est pas que pour nous, les Iraniens, c'est pour le monde entier.
Reza Pahlavi, qui s'exprime en anglais, qui vit aux États-Unis depuis longtemps, est-ce qu'il incarne, selon vous, Thierry Coville, une alternative crédible en cas de chute de la République islamique?
Alors, il faut être très prudent. Jusqu'avant les mouvements de protestation, le consensus, et d'après les sondages qui sont faits en Iran, c'était autant il y a une vraie crise politique de légitimité par rapport au système politique actuel. Une grande partie des Iraniens n'ont plus confiance dans le système politique actuel, enfin ne se reconnaissent pas dans le système politique actuel. Il y a eu le taux de participation de 50% le plus faible lors des dernières élections présidentielles en Iran en 2024. D'un autre côté, ce qu'on entendait dire aussi, c'est qu'il n'y a pas un discours alternatif crédible qui s'impose auprès des Iraniens. Alors, ce qu'on a vu effectivement lors de ces manifestations, c'est que à partir de jeudi, suite à l'appel de Reza Pahlavi, des Iraniens, beaucoup d'Iraniens sont sortis, ont commencé à scander mort au dictateur et on veut le retour des Pahlavi. La question qui se pose, c'est, je pense pas qu'ils représentent la majorité des Iraniens. Et d'autre part, les Iraniens qui vont dans la rue sont assez malins, c'est peut-être tactique, c'est-à-dire même des Iraniens qui veulent pas forcément le retour à la monarchie, ils utilisent ça pour dire au système politique actuel, la République islamique d'Iran, on vous déteste, on veut autre chose. Donc, pour répondre à votre question, il a des supporters, c'est clair, en Iran. Je ne suis pas sûr qu'il représente la majorité des Iraniens, et ça, c'est la grande question.
Certains disent que c'est une marionnette au service des États-Unis pour déstabiliser le pouvoir en place.
Il faut savoir que l'Iran a une histoire compliquée avec les pays occidentaux. C'est que, quelque part, en 1925, quand le grand-père de Reza Pahlavi prend le pouvoir après un coup d'État en Iran, on n'est pas trop sûr, mais il y a quand même sans doute une bienveillance des Anglais. En 1953, quand le premier ministre Mossadegh est déposé par un coup d'État, ce qui permet au père de Reza Pahlavi de revenir, c'est un coup d'État organisé par l'intelligence service anglaise et la CIA américaine. Donc, il y a une histoire derrière. Alors, Reza Pahlavi dit effectivement, moi je suis là pour, je veux pas imposer un système politique, je suis prêt à faire un gouvernement de transition, mais disons, voilà, il y a une histoire, il y a une mémoire collective en Iran. Donc, effectivement, son père et son grand-père sont arrivés au pouvoir avec, entre guillemets, l'aide active, dans le cas de son père, des Anglais et des Américains. Donc, et puis, il y a un nationalisme de résistance en Iran. C'est pour ça que je vous disais que Donald Trump, il réfléchit à tout ça. Généralement, les interventions étrangères en Iran se passent pas très bien. Ça donne pas des résultats exactement comme on veut. Donc, voilà, je pense qu'il a des partisans. Faut être stupide pour pas le remarquer. D'un autre côté, c'est la grande question. Est-ce qu'il représente la majorité des Iraniens? Jusqu'à présent, on avait plutôt tendance à dire non.
Mais vous disiez qu'il avait des supporters, en tout cas en Iran. Est-ce que c'est pas un peu étonnant quand on se souvient ce qu'était le régime des Shahs, ce qu'était l'Iran au moment où son père régnait d'une main de fer sur le pays?
Oui, mais si vous voulez, bon, alors j'ai vécu en Iran, vous savez, dans tous les régimes, il y a une nostalgie, c'était mieux avant, etc. Donc des gens qui ont vécu durant cette période, c'est vrai qu'il faut être juste, il y a une période de forte croissance économique, c'est vrai qu'il y avait une dictature politique, mais il y avait une forte croissance économique, l'Iran se modernisait à toute vitesse, sans doute trop vite. Mais bon, vous avez notamment la classe moyenne qui a beaucoup profité de cette période-là, elle est nostalgique. D'un autre côté, je vous dis,
Ensuite, quand je revenais en Iran, j'entendais des réflexions, disaient « Ah, c'était mieux avant ». Alors, il faut savoir, c'est qu'en Iran, il y a une grosse admiration, non pas pour Mohammad Reza Shah, mais pour Reza Shah, hein, le grand-père de Reza Pahlavi. Parce que, et c'est vrai, hein, c'est un peu comme Atatürk, on considère que c'est lui qui a vraiment créé l'Iran moderne, créé le service militaire obligatoire, qui a développé le centralisme en Iran, qui a repris en main l'Iran, qui l'a modernisé, qui a créé les premières universités. Donc, il y a une grande admiration pour son grand-père. D'un autre côté, voilà, effectivement, je pense que je vous l'ai dit, il y a des supporters parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes les figures politiques d'opposition en Iran, elles ont disparu, elles ont été emprisonnées. Dès qu'il y a un syndicaliste qui commence à monter, il est emprisonné. Donc, quelque part, il est identifié comme un opposant. Et je pense qu'il y a beaucoup d'Iraniens qui se disent, bon, ben, on n'est pas content du système actuel, on veut un changement, il y a un opposant, tactiquement, on va le soutenir. Mais voilà. Donc, effectivement, il a des soutiens. Je vous dis, on en revient toujours à la même question. Je ne suis pas sûr qu'il représente la majorité des Iraniens. L'Iran est un pays qui a beaucoup, la société iranienne s'est beaucoup modernisée. Il y a un haut niveau d'éducation. Je ne pense pas qu'il y ait un désir de revenir à une dictature monarchique.
Le spécialiste de l'Iran, Thierry Coville, chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, qui répondait aux questions France Info de Thomas Séchier. Nous serons au Royaume-Uni dans un instant où la série Phénomène Adolescence va donner naissance à un livre.
France Info, 5h-6h.
À 6h moins le quart, c'est l'heure de l'info en une minute avec Diane Ferchit. Et à la une, début de la campagne de recrutement pour le service national militaire volontaire.
Nouveau dispositif annoncé il y a 2 mois par Emmanuel Macron. Il est officiellement lancé aujourd'hui. Un service national militaire volontaire qui s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans. Pour une durée de 10 mois, ils recevront une solde mensuelle de 800 euros minimum. La FNSEA et les jeunes agriculteurs veulent une saisine de la Cour de justice européenne au sujet de l'accord avec les pays du Mercosur. Accord qui doit être signé samedi par l'Union européenne. Le monde agricole qui ne décolère pas. Depuis hier soir, les agriculteurs bloquent l'autoroute A1. D'autres blocages sont toujours en cours, notamment sur l'A63 et l'A64. Les ONG évoquent plusieurs centaines de morts dans la répression des manifestations en Iran contre le régime. Et selon Donald Trump, une réunion est en cours de préparation avec Téhéran. Téhéran qui veut négocier, affirme le président américain. Il a menacé l'Iran d'une opération militaire américaine. L'administration Trump envoie des centaines de policiers fédéraux à Minneapolis dans le Minnesota après la mort d'une femme de 37 ans lors d'une opération de la police de l'immigration. Sa mort a entraîné d'importants rassemblements un peu partout dans le pays. La ministre de la Sécurité intérieure accuse les démocrates d'encourager la violence à l'encontre de la police fédérale de l'immigration.
Info. C'est une série qui a été suivie par des dizaines de millions de personnes sur Netflix. Adolescence, série britannique dans laquelle on suit un père dont le jeune garçon a commis un meurtre sur fond de masculinisme. L'acteur qui incarne ce père et qui a écrit la série, Stephen Graham, désormais lance un appel aux pères du monde entier pour lui faire parvenir des lettres écrites de leurs mains à destination de leur fils sur leur vision de la masculinité. La fin de cet appel à contribution est fixée à aujourd'hui. L'ouvrage paraîtra en octobre. Gaëlle Joly, vous êtes la correspondante de France Info à Londres et vous avez justement rencontré l'un des pères qui a pris la plume, 10 pages destinées à son fils de 24 ans.
Dear Oliver, I have wished so many times.
Cher Oliver, j'ai souvent rêvé qu'on puisse s'asseoir ensemble, boire une bière et te dire tout ce que je vais t'écrire ici. J'espère qu'on le fera un jour. Mais comme tu n'aimes pas parler de ce que tu ressens, j'ai préféré tout mettre par écrit.
Cette lettre à son fils, Matt y pensait depuis longtemps. Alors quand il a découvert ce projet sur les réseaux sociaux, cet ancien officier du renseignement militaire britannique, âgé de 50 ans, a pris la plume et posté l'enveloppe depuis son village des Midlands, au centre de l'Angleterre.
Mon fils est assez réservé. Il ne parle pas beaucoup de ses sentiments. Il est exactement comme moi, à son âge. J'ai essayé de lui dire tout ce que j'aurais aimé qu'on me dise, mais sans lui dire quoi faire. Lui montrer à quel point je le soutiens, à quel point il est incroyable. Je veux qu'il sache que c'est OK d'être sensible, que ce n'est pas une faiblesse, et surtout qu'il puisse s'exprimer en tant qu'homme sans être jugé.
Une lettre qu'il aurait aimé recevoir de son père.
I didn't speak to my father since I was 14. Crikey.
Je n'ai plus parlé à mon père depuis mes 14 ans. Bon sang, j'avais 49 ans quand il est mort. Et ces deux dernières années, j'ai appris à le connaître. On a eu faux tous les deux. J'ai vu ses faiblesses, sa culpabilité. Et si j'avais su ça quand j'étais plus jeune, peut-être que je n'aurais pas été aussi dur avec lui. Je l'ai repoussé parce que je pensais qu'il ne me comprenait pas. Mais en réalité, c'est moi qui ne le comprenais pas. Et mon fils est un peu pareil que moi. Moi aussi, j'ai ma manière de voir les choses et je fais des erreurs.
Matt n'a pas encore informé son fils de l'existence de cette lettre. Il attend la publication du livre à l'automne prochain pour lui remettre un exemplaire manuscrit entre ses mains.
Merci Gaëlle Joly. Et j'ajoute justement que Stephen Graham, qui est à l'origine de cette série et qui joue le père dans Adolescence, a remporté un trophée aux Golden Globes cette nuit. 4 trophées au total pour Adolescence, dont celui de meilleure mini-série. Il est 5h49 et c'est l'heure du choix de France Info. Ça sent très bon pour la filière parfum. Les ventes dans le monde ont bondi de 11% selon les derniers chiffres et 6000 nouvelles fragrances ont été créées rien que l'an dernier. C'est 3 fois plus que ce que l'on pouvait voir avant le Covid. Bonjour Marina Cavitaine.
Bonjour.
Ce succès, il est surtout dû aux ados et aux jeunes adultes.
Pour le constater, allons dans un endroit qui ne sent pas spécialement bon. Une galerie commerciale un peu tristoune, en sous-sol d'une gare. Le genre de lieu où vous trouvez désormais, à Paris comme partout en France, les boutiques Adopt, marque française de parfums bon marché qui cartonne.
J'ai pas les moyens de mettre dans des parfums de grandes marques qui vont être à 100€ la bouteille.
Zoé, 19 ans, vient racheter pour 11,95€ une bouteille du best-seller de la marque qui sent la poire et la vanille. Elle craque aussi au moment de passer en caisse pour une brume. Ces parfums légers à vaporiser, très à la mode.
Justement, je trouve que c'est bien avec la marque d'avoir beaucoup de parfums différents et souvent des nouveautés parce que j'ai pas forcément un parfum sur lequel je reste depuis 10 ans, donc ça me permet de changer un peu.
Nouveautés, large choix, promotion, tout est fait pour inciter à collectionner les parfums, à les accumuler comme cette clientèle le fait souvent déjà pour les vêtements. Alexandra a 23 ans.
Genre par exemple un plutôt pour le soir, pour les soirées habillées, ou un plus léger pour certains événements, hein, qui va être plus d'été.
Ces parfums de masse dopent le marché, leur vente a augmenté de 17% l'an dernier.
Et Marina, ces marques, elles imitent souvent les parfums connus des grandes maisons d'ailleurs. On appelle ça des dupes. Alors la riposte, elle s'organise. Vous nous emmenez maintenant dans une parfumerie indépendante.
Fragrance de l'Opéra, une boutique qu'Élis connaît depuis son enfance puisqu'elle y a aidé sa maman pendant des années avant d'en prendre les rênes.
Par rapport à l'époque de ma maman, on voit quand même un nombre de références qui a vachement augmenté, même par marque en fait. C'est-à-dire qu'on a beaucoup ce qu'on appelle un peu des flanqueurs. C'est des parfums qui reprennent une ligne qui fonctionne bien et ils vont en faire des déclinaisons, soit en reprenant le nom, soit en reprenant un peu la fragrance et puis en la twistant d'une quelconque manière.
Chanel, Guerlain, Hermès doivent mettre le paquet pour convaincre une clientèle plus jeune d'acheter l'original plutôt que la copie et d'y mettre le prix. Numéro 5 de Chanel, dont un flacon se vend toutes les 30 secondes dans le monde, c'est 120€ les 50 millilitres, 90€ pour un autre classique qui vient de s'offrir une nouvelle égérie.
J'adore Dior.
Rihanna, c'est génial. Enfin, Dior est en train de dire aux jeunes, bah non, le j'adore, c'est pas juste le parfum de la maman.
Et puis il y a Angèle aussi qui représente un parfum Chanel visant clairement les jeunes femmes. Ça marche très fort, notamment en Chine où le marché du parfum est en train d'exploser. Mais il y a encore plus puissant qu'une chanteuse connue pour faire acheter du parfum aux jeunes.
On voit vraiment beaucoup d'influenceurs parfums. C'est quasiment des adolescents, des jeunes de 18-19 ans qui ont une communauté assez forte.
Les amis, j'espère que vous allez bien. On s'arrête ici 2 minutes et il faut que je vous parle d'un parfum surprenant. C'est un parfum qui vous fera voyager entre la Corse et les Maldives. Et oui, c'est possible.
Mais c'est vrai que je trouve que les jeunes générations, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 30 ans, n'hésitent pas à aller sur des parfums qui sont forts, en fait, qui laissent un sillage. J'ai l'impression qu'elle a besoin de s'affirmer dans sa singularité. Et donc, du coup, ils cherchent des fragrances qu'on ne trouverait pas ailleurs, qu'on ne trouverait pas chez son voisin et ni chez son copain.
Et cette volonté de se démarquer, Marina, elle est à l'origine, là encore, d'une nouvelle tendance, la création de parfums personnalisés.
Également très populaire chez les influenceurs, ces ateliers se multiplient dans les grandes villes. Chez Gallimard Parfum à Paris, je trouve les participants le nez dans de jolis flacons en verre à l'ancienne, posés devant eux par dizaines pour choisir, comme l'explique la parfumeuse Elsa, notes de tête, notes de fond et notes de cœur.
Actuellement, la tendance, c'est les gourmands.
Donc on a beaucoup, beaucoup de clients qui apprécient la note vanille, par exemple, parce que ça rappelle les souvenirs d'enfants. On a également des gens qui apprécient la note tabac. On a également la prune, qui est quasiment vide à chaque fois. Comme les gens s'intéressent de plus en plus à la parfumerie, là, nous, on est quasiment complet.
Après 2 heures et pour 89 euros, chaque participant repart avec son parfum. Ici encore, il y a beaucoup de jeunes clients. Alors Katharina, elle, l'est un peu moins, mais finalement, c'est aussi à une jeune personne qu'elle doit cette expérience.
Voilà, on a reçu un cadeau de Noël de la part de notre nièce.
Habituellement, vous avez un parfum depuis longtemps qui est toujours le même, vous ?
Oui, oui, plus que 40 ans, 42 ans. Et je n'ai jamais changé. On va voir si ça marche ou pas.
Un marché du parfum florissant, c'est aussi une aubaine pour l'industrie française. Chanel ouvre une nouvelle usine dans l'Oise cette année avec l'embauche de 250 personnes. Et le numéro 1 mondial, L'Oréal, double sa production de parfums dans son usine de Gauchy dans l'Aisne en investissant 60 millions d'euros.
Merci Marina Capitaine pour le choix de France Info. Nous serons à Hollywood dans la playlist de Diane Ferchit juste après l'Actu Éco en direct avec Emmanuel Cuny. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'Éco. Avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Actualité économique en trois titres, on commence avec la Chine qui vend désormais plus de voitures que le Japon.
Et oui, avec 27 millions d'automobiles assemblées l'année dernière, les constructeurs chinois ont fait mieux que les 25 millions d'unités produites par leurs homologues japonais. Sur l'ensemble du marché mondial, la Chine a vendu 5 700 000 voitures l'an dernier. La marque de voitures électriques BYD a largement contribué à ce succès et continue d'ailleurs d'y participer. Selon les prévisions du quotidien japonais Nikkei, les ventes de voitures chinoises dans le monde devraient encore progresser de 17% cette année.
La bourse de Paris vole de record en record.
Et oui, le dernier en date remonte à vendredi. L'indice CAC 40 a atteint un sommet à 8362 points. Le précédent record de l'indice phare des 40 plus grandes entreprises cotées à la bourse de Paris remonte au mois de novembre. Le CAC est largement soutenu en ce moment par les valeurs liées à la défense. L'action du groupe militaro-industriel Thales a pris 17% depuis le début du mois. Autre secteur porteur, le luxe qui revient en force après une période d'accalmie. Les quatre valeurs principales du luxe, LVMH, Hermès, L'Oréal et Kering, pèsent aujourd'hui près de 20% de la Bourse de Paris.
Un producteur de vin bordelais s'installe près de Nantes.
Oui, il s'agit de Castelvin. L'entreprise va investir 10 millions d'euros à la Chapelle-Lin en Loire-Atlantique et ce pour y produire des vins sans alcool. Une usine de désalcoolisation présentée comme unique en Europe.
Emmanuel, on vous retrouve dans une demi-heure sur France Info. Ce sera le Brief Éco.
La discorde gagne l'industrie pharmaceutique. En France, plusieurs grands groupes du secteur décident de quitter le LEM, le principal syndicat patronal des industriels du médicament, pour créer leur propre structure d'influence auprès des autorités publiques. Alors Sanofi, Servier, Pierre Fabre notamment, tous mettent en avant le manque de dynamisme de l'actuel syndicat professionnel face à la poussée de la Chine et des Américains.
Merci beaucoup Emmanuel Cuny. À 5h56, c'est l'heure de la playlist du jour de Diane Ferchit et elle se déroule, Diane, sur tapis rouge.
Oui, sortez votre smoking, William, pour la 83e cérémonie.
Ce matin.
Exactement, des Golden Globes à Los Angeles. C'était cette nuit les récompenses du cinéma et des séries télé qui lancent la saison des prix à Hollywood. Première catégorie qui nous intéresse, celle de la meilleure bande originale. Le prix revient à celle du film Sinners, film fantastique dans l'Amérique rurale des années 30. Il traite de la ségrégation en utilisant le mythe du vampire. Yes, I lied to you. I love the blues. Une bande originale pleine de blues et de guitare. Son compositeur Ludwig Göransson s'est inspiré d'enregistrements datant du début du XXe siècle pour essayer de rendre l'ambiance musicale la plus proche possible de la réalité de l'époque.
Et pour la meilleure chanson, Diane, c'est un tout autre style qui reçoit la récompense.
Oui, la chanson Golden, tirée du film d'animation K-pop Demon Hunter. Tout est dans le titre, hein, des chanteuses de K-pop qui chassent les démons grâce à leur voix. C'est plus de 3 milliards d'écoutes dans le monde. K-pop
Demon Hunter, film d'animation le plus regardé de tous les temps sur Netflix. Et pour la diffusion en France, il existe aussi, William, une VF, version française de cette chanson qui a su attirer un public tant d'enfants que d'adultes. Et je ne résiste pas de vous en passer un morceau. Venu là pour briller, un peu l'histoire de votre vie, hein, William. Je crois que ça vous donne envie de faire quelques pas de K-pop dans le studio, K-pop Demon Hunter, qui a également remporté cette nuit le prix du meilleur film d'animation.
Merci beaucoup, Diane Ferchit. C'est un peu le nouveau libéré, délivré de la Reine des Neiges. Hein. Ça y ressemble un petit peu.
Ça marche très bien dans les cours de récré.
Bah, 5h58, c'est pas la Reine des Neiges, c'est la Reine des Pluies qui arrive, Christine Peña.
France Info Météo, avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin, grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur Vérissure.fr.
Pardon, moi, pour ce surnom
reine
gratuit.
De quelque chose.
La reine du soleil, Christine Peña.
Non, pas aujourd'hui.
Bon, avec un découpage nord-sud classique.
Oui, la classique. Donc, les pluies, le vent sur la moitié nord. Et attention aux pluies verglaçantes sur le nord-est, hein, du côté de l'Alsace, de la Lorraine notamment. Je vous expliquerai ce que sont exactement, d'ailleurs, tout à l'heure, les pluies verglaçantes. Et puis, au sud, nous avons un temps beaucoup plus calme avec un ciel lumineux, même si c'est vrai, à l'étage élevé, nous avons ces cirrus là, qui donnent un ciel légèrement blanchâtre, surtout dans l'est. Et nous avons ces nuages qui s'invitent depuis la mer sur le golfe du Lion, et surtout cet après-midi, ils remonteront un peu sur la moyenne vallée du Rhône. Les températures, la douceur revient. 12 à Paris, 14 à Rennes, comme à Bordeaux, 18 même à Biarritz avec l'effet de Fun. Ça aussi, je vous l'expliquerai. Et puis 11 degrés à Lyon, 10 à Lille. Finalement, j'ai du taf ce matin.
Ben oui, finalement. Merci beaucoup à la reine de la météo, Christine.